Club ZDNet, le débat business et technologie. Chaque semaine, le rendez-vous des acteurs qui font l'actualité IT. Club ZDNet avec Philippe Leroy.
Bonjour, bienvenue sur ce nouveau numéro de Club ZDNet. Un navigateur internet qui capte 23% de parts de marché en moins de 3 ans, la création d'un pôle de compétitivité entièrement consacré au développement des logiciels non propriétaires, ou encore des députés qui adopteront dès la prochaine législature un système d'exploitation à base de noyaux Linux sur leur ordinateur. On parle donc aujourd'hui de l'actualité des logiciels libres. Comment expliquer le succès de Firefox, que représente aujourd'hui l'économie du logiciel libre? L'État doit-il montrer l'exemple dans l'utilisation de ces logiciels? Pour répondre à toutes ces questions et à quelques autres, nous recevons aujourd'hui Tristan Nitto, président de la Mozilla Europe, Alexandre Zapolski, PDG de l'Inagora et président de l'Association des sociétés de services en logiciel libre, et Frédéric Couchet, délégué général de l'April, l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre. Et pour commencer, on retrouve Christophe Guimin, journaliste à la rédaction de ZDNF.fr, qui fait un point sur l'actualité de ce dossier. Christophe, bonjour.
Bonjour Philippe. Oui, alors pour revenir un petit peu sur les fondamentaux du libre, le libre avant tout, c'est une licence, c'est la licence GPL, la GNU General Public License, inventée par Richard Stallman. Alors qu'est-ce que permet cette licence? Elle permet à tout développeur d'accéder librement à un code informatique et de le modifier à sa guise. Seule condition, il devra reverser ses travaux à la communauté, c'est-à-dire republier le code avec ses propres modifications pour qu'il soit à son tour utilisable par d'autres. C'est le principe du noyau Linux, dérivé d'Unix, qui a donné naissance à une multitude de systèmes d'exploitation tels que Debian, Ubuntu ou même ceux de Red Hat et Mandriva. Fort de cette adaptabilité, Linux a d'abord conquis le marché des serveurs. Dernier chiffre en date, l'OS libre représente 12% du marché des serveurs en 2006, en valeur, selon Gartner, contre toujours 33% pour Unix et 35% pour Windows. Alors Linux peine en revanche beaucoup plus à s'imposer sur le poste client. Il est utilisé aujourd'hui par environ 0,7% des internautes en Europe. C'est encore faible par rapport à Windows. Mais les logiciels libres ne se limitent pas au système d'exploitation. Le navigateur Firefox a fait beaucoup parler de lui. En quelques années, il est devenu un véritable concurrent d'Internet Explorer. En Europe, le navigateur libre a dépassé les 23% donc de parts de marché en termes de visites. En France, une forte impulsion pour l'utilisation des logiciels libres est donnée par les pouvoirs publics. Les administrations multiplient les migrations de logiciels propriétaires vers les alternatives libres. Le ministère de l'Agriculture, par exemple, a ainsi choisi de passer de Microsoft Office vers la suite libre OpenOffice.org. La suite OpenOffice est également déployée, tout comme Firefox, par la Gendarmerie nationale et la Direction générale des impôts. Dernier exemple, les députés de l'Assemblée nationale disposeront à la prochaine rentrée parlementaire, bientôt, de PC portables totalement équipés de logiciels libres. Alors avec un tel engouement, le phénomène logiciel libre dépasse aujourd'hui le domaine des passionnés qui l'ont popularisé. Il intègre désormais des logiques professionnelles. En France, juste un chiffre, le marché des logiciels libres est estimé à 450 millions d'euros en 2006.
Merci Christophe.
Club ZDNet, le rendez-vous des acteurs qui font l'actualité IT.
Alors on rentre dans le vif du sujet, on va parler pendant 45 minutes de logiciels libres. Tristan Nitto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le président de Mozilla Europe. Alors Mozilla Europe, pour ceux qui sont des lecteurs fidèles de ZDNet ou plus généralement de la presse spécialisée informatique, on connaît. Pour le grand public, Mozilla Europe, ce qu'on connaît, c'est Firefox. Firefox, c'est le navigateur internet qui a été développé par la Mozilla Foundation, dont la Mozilla Europe est le représentant sur le vieux continent.
Tout à fait.
Vous êtes son président. Succès phénoménal pour Firefox. J'ai dit en introduction que ce navigateur basé sur du logiciel libre existait depuis 3 ans. Je me suis trompé ou pas ?
C'est un peu plus court que ça. C'est 2 ans et quelques mois. On l'a lancé en novembre 2004.
Novembre 2004, les chiffres qui circulent, qui sont fournis par des cabinets d'analystes, de spécialistes, parlent de 23% de parts de marché, donc 23% des internautes, pour faire simple, qui utilisent Firefox pour leur pratique de l'Internet au quotidien. C'est quand même un phénoménal succès.
Mais surtout qu'on a, en fait, c'est surtout du marketing façon bouche à oreille. Hein. On n'a pas des budgets à la Microsoft pour faire des pubs télévisées avec Flavie Flamand à 20h. Hein. Donc nous, c'est les gens, ils vont utiliser le logiciel parce qu'il est meilleur, parce que des amis leur en ont parlé, parce qu'ils y trouvent leur compte et ils ont envie d'en parler autour d'eux. Ah oui, j'utilise Firefox, c'est vachement bien. On intègre les moteurs de recherche, il y a une navigation par onglet, c'est plus sécurisé. Et le bouche à oreille fait comme ça qu'on a eu plus de 300 millions de téléchargements. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a, on approche bientôt des 100 millions d'utilisateurs réguliers dans le monde, ce qui en fait poussé Microsoft, qui avait complètement abandonné le marché des navigateurs depuis 5 ans, à se ressaisir et à faire un Internet Explorer 7 qui est encore en retard par rapport à nous, mais qui est très encourageant dans la mesure où cette société qui avait le monopole, qui s'était endormie sur ses lauriers et qui ralentissait le web, qui est pourtant une invention formidable, eh bien, semble se ressaisir aux dernières nouvelles. C'est ce qui compte pour nous, parce qu'on est une association de loi 1901, on est à but non lucratif. Pour nous, ce qui compte, c'est de promouvoir le choix et l'innovation sur Internet. Et le fait de faire bénéficier de Firefox à près de 100 millions de personnes, c'est bien. Et le fait que d'autres aussi, même s'ils restent avec Microsoft, ont une meilleure expérience d'Internet, c'est bien aussi.
Alors, est-ce que vous avez une idée du profil de ces 100 millions de personnes? Alors, 100 millions de personnes, peut-être pas dans le détail, mais Firefox, parce qu'effectivement, il est quand même une émanation de cette communauté des utilisateurs, disons, avancés, hein, de logiciels d'informatique plus généralement. Est-ce que... comme on dit dans le langage un peu courant, est-ce que pour utiliser Firefox, on est forcément nerd, ou est-ce qu'à l'inverse, il y a des gens qui utilisent Firefox sans se douter une seule seconde, parce que d'ailleurs ça ne les intéresse pas du tout, de se préoccuper de savoir que Firefox est un logiciel libre en contrepoint d'un Internet Explorer qui est un logiciel propriétaire?
Alors non, effectivement, il y a toute une gamme en fait d'utilisateurs et de raisons pour utiliser Firefox. Historiquement, c'est vrai que c'était des utilisateurs avancés, très sensibles à cet aspect qui, à mon sens, essentiel, que c'est un logiciel libre, c'est-à-dire que c'est pas une boîte noire, ça tourne sur toutes les versions de Windows. Enfin, on n'essaye pas de vous filer un Firefox pour vous faire upgrader vers la dernière version de Vista ou la dernière version d'XP. Nous, ça, on s'en fiche. Donc, ce qui fait que si vous avez encore Windows 2000 et vous êtes content avec, eh ben, vous pouvez utiliser Firefox. Voyez. Donc déjà, c'est pas neutre. Et ces utilisateurs avancés, en fait, sont aussi de très grands prescripteurs. Ils vont être capables de dire, et c'est le cas pour moi, à leur maman, à leurs amis, tiens, utilise Firefox, ça marche mieux, c'est très simple d'utilisation. Et puis comme ça, tu m'appelleras moins quand tu auras cassé ton ordinateur. Et donc ça, je pense que c'est notre grande force, c'est d'être capable de s'adresser au power user, à l'utilisateur avancé, qui à son tour va pouvoir recommander Firefox parce que c'est un logiciel très très simple d'utilisation. Et c'est vraiment quelque chose qui nous sort du lot. C'est qu'on a mis énormément d'efforts pour faire un produit très très simple d'utilisation qui convienne à tout le monde. Mais tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Donc pour nos utilisateurs avancés, il y a la possibilité de rajouter des extensions à Firefox, et ces utilisateurs avancés vont pouvoir personnaliser leur logiciel. On a plus de 2000 extensions aujourd'hui, donc ils sont capables de faire des choses très très avancées avec Firefox, tout en disant à leurs proches qui ont des besoins plus simples et qui ont surtout besoin de choses très très simples à l'usage, de dire utilise Firefox tel quel, sans extension, t'embête pas, ça marche à la perfection et tu n'auras pas peur de t'en servir. Donc ça, c'est bien.
Question de Christophe Guim.
Justement, pour revenir sur les profils, Tristan Ditto, est-ce que vous savez combien d'utilisateurs sont plutôt professionnels et combien sont plutôt grand public? Et est-ce qu'il y aura peut-être un jour une version pro de Firefox?
Je pense pas qu'il y ait besoin d'une version pro de Firefox. Après tout, chacun fait ce qu'il veut. Et puis, pour répondre à votre question sur les différents profils, on n'en sait rien. C'est que, comme chacun peut redistribuer Firefox, puisque c'est du logiciel libre, il n'y a pas besoin de nous prévenir. Quelqu'un peut acheter un magazine avec un CD, et puis le tester, et puis le mettre dans son entreprise. Par exemple, pour les 70 70 000 gendarmes qui utilisent tous Firefox, bon, je pense qu'ils ont dû en télécharger 3-4 copies, et puis après, ils l'ont copié 70 000 fois sur leur poste. Et nous, on n'en a jamais rien su jusqu'à ce qu'un colonel me contacte en me disant bah, « Vraiment, votre logiciel, il est vachement bien, mais d'ailleurs, on ne vous paiera pas. » Ben non, il est gratuit.
Alors, c'est vrai que ça peut arranger quand même pas mal de monde. Y a souvent quand même cette mauvaise compréhension entre le couple logiciel libre, gratuité, et pour le public, on dit grand public, mais même pas si grand que ça, des gens qui sont quand même plutôt bien informés de l'économie du logiciel et de l'informatique, on a du mal à comprendre cette articulation entre le fait qu'on puisse développer un produit et que tout ça repose sur un échange qui n'est pas commercial. Est-ce que vous pouvez nous repréciser quand même comment Firefox se développe, comment il grandit, qui fabrique finalement Firefox ?
Alors, ce qui fabrique Firefox, c'est une communauté de gens et on ne leur demande pas pourquoi ils le font. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, il y a des employés, et il y en a de plus en plus. Maintenant, on a une centaine d'employés répartis dans le monde. Mais il y a aussi des gens qui sont payés, qui sont des ingénieurs payés par des partenaires pour améliorer Firefox. Il y a des gens de Red Hat, il y a des gens de Novell, il y a des gens d'IBM, il y a des gens de l'Inagora.
Alexandre Zapolsky dit « Moi, je contribue aussi ».
Oui, voilà. Donc ça, c'est quelque chose... tout le monde peut apporter sa pierre. Et puis, il y a aussi beaucoup de bénévoles qui contribuent peut-être moins longtemps, mais qui font ça comme un hobby, qui ont envie d'améliorer quelque chose qu'ils n'apprécient pas dans le logiciel. Ils voudraient qu'il fonctionne comme ceci ou comme cela. Et donc, ils vont apporter des modifications. Et puis, il y a des gens qui font de la localisation, c'est-à-dire qui font la traduction. Et bref, on est plusieurs dizaines de milliers de personnes, à peu près 50 000 qui ont ce qu'on appelle un compte Bugzilla, donc qui sont recensés et qui peuvent suggérer des améliorations ou des façons d'améliorer le produit ou bien qui peuvent suggérer du code. Et puis, en fait, concrètement, il y a environ 700 personnes qui fournissent vraiment du code qui est après moult vérifications est éventuellement intégré dans Firefox.
Et après, qui décide quand là, on a eu une version 2 finalisée il y a quelques mois. On sait déjà que la version 3 est en train de se préparer sur le mode que vous venez de décrire, hein, c'est-à-dire la grande communauté qui commence déjà à préparer la suite. Quand le Firefox 2.0 a été mis à disposition du public, qui, au sein de la Mozilla Foundation ou de Bugzilla, que vous avez cité, à un moment dit « voilà ». C'est terminé, la version est finalisée pour Firefox 2.0. On s'arrête là. Il y a un chef de groupe, un chef développeur.
Il y a une personne qui dirige une équipe, ce qu'on appelle dans notre jargon les drivers, les pilotes en fait, qui est Mike Connor, qui est un Canadien. Et en fait, cette personne est en quelque sorte élue par un système de méritocratie. C'est-à-dire que Mike, il a participé comme tout le monde. Et puis, on a vu qu'il était bon, qu'il prenait les bonnes décisions, qu'il avait une capacité à atteindre le consensus au sein de l'équipe. Alors, on l'a fait rentrer dans l'équipe des drivers. Et puis, l'équipe des drivers, à son tour, il a fallu trouver un chef. Et puis, le consensus a fait que Mike a été choisi par l'équipe. Donc, c'est les gens qui sont bons, qui sont choisis par leur père et qui grimpent dans une hiérarchie. C'est pas une hiérarchie d'entreprise où on va embaucher quelqu'un et on va le bombarder à un poste. Et puis si c'est un tocard, toute l'organisation en pâtit, mais il faut pas que ça se voit, quoi. Là, c'est une approche qui est plutôt du bas vers le haut, où les gens commencent à contribuer comme tout le monde. Tout le monde peut ouvrir un compte Bugzilla aujourd'hui. Tout le monde peut faire des suggestions, mais ceux qui sont les plus efficaces vont apprendre au fur et à mesure, vont être choisis, vont être amenés à progresser dans cette hiérarchie.
Alors, toujours sur la Mozilla Foundation, il y a eu un petit frisson parmi les spécialistes du secteur, alors journalistes, analystes, il y a quelques mois, quelques semaines, quand on a appris que Mozilla Foundation était sur l'aspect commercial, d'ailleurs vous allez nous expliquer ça, qu'il y avait de l'argent dans les caisses. Et il y a eu une espèce de surprise en disant, mais on pensait qu'une association de loi 1901 ou une fondation à but non lucratif ne pouvait pas avoir de revenus. Il y a eu, il n'y a pas eu débat, mais il y a eu quand même des discussions, certains disant qu'il n'était pas normal à leurs yeux de considérer que la Mozilla Foundation pouvait être à la tête d'un fonds de trésorerie de 53 millions de dollars, je crois, de mémoire.
Et en fait, il y a...
Alors, comment ça se passe? Parce que cet aspect, vous venez de décrire finalement un fonctionnement très, très communautaire, où effectivement, les gens se choisissent entre eux en fonction de leurs compétences. Et puis, il y a eu irruption, hein, comme je disais il y a quelques semaines, de cette problématique de l'argent. Alors, comment... D'où vient cet argent et comment la Mozilla Foundation est financée pour se développer?
Alors, c'est une très bonne question. En fait, il y a une longue évolution de notre fonctionnement. Moi, j'ai été bénévole pendant 18 mois quand j'ai créé Mozilla Europe, parce que bon, on savait pas comment on allait gagner de l'argent. Et concrètement, moi, je venais de perdre mon boulot et j'ai investi mon argent pour me... Enfin, investi serait bien fort, parce que investi, ça veut dire qu'on devient propriétaire de quelque chose. Moi, je suis propriétaire de rien. Je suis président d'association. Tout ce que j'ai... Je ne suis pas actionnaire, si vous voulez, de la chose. Je ne peux pas revendre cette association. Donc, j'ai donné, en fait, l'argent de ma prime de départ à Mozilla pour me soutenir financièrement pendant que je travaillais là-dessus. Et je ne pensais pas que je travaillerais un jour à temps plein, indéfiniment, avec un salaire là-dessus. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça a fini par arriver. Alors, comment c'est arrivé? C'est que dans Firefox, il y a, en haut à droite de la fenêtre, il y a une petite zone de saisie où on peut taper des mots-clés pour faire des recherches. Parce que la recherche sur Internet, c'est drôlement important. Donc, quand on a commencé à créer Firefox, on s'est dit, on va mettre une boîte de recherche. Ça, c'est très utile pour nos utilisateurs. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme système de recherche, comme moteur de recherche? Bon, il n'y avait pas photo il y a 3 ans, avant que Firefox ne sorte. C'était, on va mettre Google, parce que ce qu'on veut, les résultats les plus pertinents possibles, et Google est, d'après moi, et à l'époque déjà, de très loin, le meilleur moteur de recherche. Donc, on a mis Google. Et puis, on a dit, oui, mais les gens ne vont pas faire que des recherches sur Internet pour trouver des pages web. Il y en a qui veulent peut-être trouver des biens à acheter en ligne, des DVD, des livres, etc. On va mettre aussi Amazon. Mais tout le monde n'aime pas Amazon et tout le monde n'aime pas Google. Donc, on va mettre du choix. On va mettre aussi Yahoo, parce que c'est aussi un bon moteur de recherche. Puis, on va mettre eBay, parce que eBay, si vous voulez acheter des choses aux enchères, d'accord, c'est bien aussi.
Donc, vous vendez finalement à ces marques-là?
Ah non, on
n'a
rien vendu du tout. Non, on l'a fait gratuitement parce que c'était les meilleurs.
D'accord.
Gratuitement. Et puis... Les pré-versions de Firefox se sont très bien distribuées, parce qu'il y avait une grande attente des utilisateurs qui en avaient marre d'utiliser un navigateur que je ne nommerai pas, mais qui était complètement obsolète et non sécurisé. Donc, ils se sont précipités sur Firefox, les pré-versions, et puis nos partenaires, avec qui on n'avait pas vraiment de contrat ou quoi que ce soit, ont vu arriver en fait énormément d'utilisateurs en provenance de Firefox. Et à côté de ça, d'autres entreprises se sont dit « Oula, mais en fait, moi, j'aimerais bien être aussi listé dans cette liste de moteurs de recherche. » Ils nous ont contactés de part et d'autre, ceux qui étaient déjà et ceux qui n'étaient pas encore. Ceux qui n'y étaient pas encore nous ont proposé de l'argent pour y être, et ce n'était pas toujours les meilleurs.
Mmh. Et vous avez accepté ?
Non.
D'accord.
Et ceux qu'on avait choisis parce qu'ils étaient bons, eux aussi nous ont dit, nous, on voudrait consolider notre présence parce qu'elle a une valeur marchande pour nous, partenaires commerciaux. Et ils nous ont contactés, eux, en nous proposant de l'argent. Et si vous voulez, quand vous avez des centaines de bénévoles et que vous prenez l'argent, parce que ça assure l'avenir du projet, tout simplement.
Frédéric Couchet.
Oui, je voudrais juste rebondir là-dessus.
Délégué général de l'April.
Délégué général de l'April. Donc l'April, justement, a pour objectif de promouvoir et défendre le logiciel libre. Nous aussi, effectivement, on a des financements. Et je trouve très important que des fondations, que ce soit la Mozilla Foundation ou la Free Software Foundation aux États-Unis, aient des sources de revenus. Tout simplement parce qu'il y a une partie très importante aujourd'hui de notre activité, qui est la défense du logiciel libre. Et avec cet argent-là, on peut embaucher des juristes, payer des gens pour travailler à temps plein, pour faire de la veille juridique, de la veille législative, faire des actions. Mozilla Foundation, par exemple, Mozilla Europe, a fait un don à des associations françaises pour soutenir et défendre le logiciel libre. Donc moi, je trouve tout ça tout à fait normal. Il ne faut pas oublier, comme le disait Tristan, dans les contributeurs de Mozilla, de Firefox et de le logiciel libre, il y a des gens qui ont des motivations très variées. Et la plupart n'attendent pas un retour financier de leur contribution. Donc ils ne sont pas du tout choqués par le fait qu'une fondation comme Mozilla gagne de l'argent. Au contraire, ils en sont ravis parce que ça renforce le projet et ça renforce quelque part leur contribution. Donc je pense que les débats ont plus eu lieu entre journalistes qui n'avaient pas forcément tout à fait compris le modèle économique du logiciel libre, qui est un modèle qui est basé sur des communautés où il y a des gens qui contribuent de façon bénévoles, il y a des entreprises qui contribuent et des administrations qui contribuent.
Club ZDNet, le débat business et technologie. Le rendez-vous des acteurs qui font l'actualité IT.
Alors justement, là, on rentre dans un sujet qu'on va aborder hein, pendant ce podcast, c'est l'économie du logiciel libre, parce qu'on vient de le comprendre avec l'explication de Tristan Nitto. Il y a une économie, on peut générer de l'argent avec le logiciel libre. Vous, Alexandre Zapolski, c'est votre métier, vous êtes président directeur général et fondateur de l'Inagora, qui est une société de services informatiques spécialisée dans l'intégration de logiciels libres dans les entreprises. Et puis, vous êtes aussi à la tête de l'association des sociétés de services en logiciels libres.
Appelons ça l'association des professionnels du logiciel libre, puisque c'est d'ailleurs en pleine transformation. Hein. Ça s'appelle aujourd'hui l'ASS2L, et puis ça s'appellera, je l'espère prochainement, la Fédération nationale de l'industrie du logiciel libre. Et comme ça, il n'y aura même plus de débat par rapport à ça. On regroupera l'ensemble des professionnels qui soit fournissent effectivement un savoir-faire, des services dans le domaine du logiciel libre ou éditent des solutions libres et puis naturellement aussi les utilisateurs, petits ou grands.
Alors donc,
Oui, il y a beaucoup d'argent.
Il y a de l'argent sur le logiciel libre, on gagne de l'argent, ça crée des emplois.
Alors il y en a peu qui gagnent autant que Mozilla.
53 millions, hein, Tristan Nitto, vous confirmez, c'était ce que vous aviez en caisse en 2005, d'accord.
Oui, ouais, ils vont faire une belle croissance.
Il y a eu un chiffre, ceci dit, qui circulait par un cabinet de conseil spécialisé qui s'appelle Pierre Audouin Consultant, qui chiffrait le chiffre d'affaires global du logiciel libre en France à 450 millions d'euros. Donc là, vous êtes
alors nous, on a des
collectivement
estimations,
plus riche que la Mozilla Foundation.
Qui corrobore hein, celle aujourd'hui de PAC, qui d'ailleurs sont un peu plus évaluées que celle de PAC. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement, le logiciel libre est un véritable marché, que c'est une véritable économie. Le logiciel libre a des bénéfices pour les utilisateurs, c'est certain. Il y a un certain nombre aujourd'hui d'associations qui prennent en compte effectivement la défense de l'intérêt du logiciel libre et de l'intérêt du logiciel libre aussi pour les utilisateurs. Mais en parallèle de ça, c'est constitué une véritable économie autour de ces logiciels libres. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que un, ça crédibilise ce mouvement. Deux, ça donne de l'emploi aujourd'hui à des informaticiens. Et il y a des passionnés qui peuvent vivre aujourd'hui de leur activité. Alors souvent, suivant plusieurs modèles. On a l'exemple de Tristan et de la Mozilla Foundation où effectivement des gens aujourd'hui peuvent vivre de leur passion et de leur investissement passé dans le domaine du logiciel libre, passé et actuel. Et puis, il y a d'autres modèles, des modèles d'organisation qui sont ceux des entreprises tout à fait traditionnelles, où là aussi, nous, on rémunère une bonne partie de nos collaborateurs pour mettre en œuvre du logiciel libre, pour le faire évoluer, et donc, par là même, contribuer au logiciel libre.
Alors, pour être un peu concret, vous, votre activité, c'est en direction des entreprises, hein, on l'a bien compris, société de services informatiques, qui pousse du logiciel libre. Quelle est l'offre ? Vous intégrez quoi aujourd'hui dans les entreprises ? C'est des systèmes d'exploitation, des progiciels de gestion type Compierre ou d'autres ? Qu'est-ce qu'elles achètent, les entreprises ? Quelle est l'offre et quelle est la demande des entreprises ? Qu'est-ce que vous offrez et qu'est-ce qu'on vous demande ? Les deux marchent ensemble.
Déjà, ce qu'on appelait les sociétés de services en logiciel libre avec ce sigle de SS2L, aujourd'hui, il est utilisé pour nommer l'ensemble des acteurs spécialisés dans le domaine du logiciel libre. Alors, on garde ce terme SS2L, mais il signifie plus uniquement société de services en logiciel libre, mais société spécialisée en logiciel libre. Et à l'intérieur de ce vocable de société spécialisée en logiciel libre, on va retrouver différents modèles. Donc, le premier de ces modèles-là, c'est éditeur open source, c'est-à-dire que c'est des gens qui investissent, alors soit qui créent une communauté, soit investissent très fortement dans une communauté et dont l'objectif est de faire vivre un produit. Et par rapport à ce produit-là, ils vont intervenir, si vous voulez, en accompagnement pour les entreprises sur la mise en œuvre de ce logiciel, le support et la maintenance de ce logiciel. Voilà, les exemples sont multiples. En France, on a des entreprises extrêmement performantes aujourd'hui dans ce domaine-là. Il y a par exemple la société Talend, il y a par exemple la société XWiki. Ce sont des sociétés qui développent, si vous voulez, un logiciel et qui comptent se rémunérer ou se rémunèrent, si vous voulez, sur le support, la maintenance, la gestion de cycle de vie de ce produit-là. Et en général, via, comme c'est de la tradition dans notre marché, via des intégrateurs, des grandes sociétés, des plus petites sociétés. Donc ça, c'est un premier modèle, un éditeur open source. Il y a un modèle mixte, que nous, on appelle éditeur orienté service. C'est le fait de ne pas investir une seule de ces communautés, mais si vous voulez, c'est d'être cross-communauté, plutôt de travailler sur les méthodes et les savoir-faire pour travailler avec les communautés et de développer des offres, là aussi, d'accompagnement sur des catalogues de produits. Chez nous, à l'Inagora, ça s'appelle par exemple l'Open Source Software Assurance. Et nous, on supporte, on maintient un catalogue aujourd'hui de produits de plus de 150 composants. Et naturellement, c'est une offre qui s'adresse plutôt aux grands comptes, hein, avec des coûts d'entrée relativement importants. Il n'y a pas d'offre d'OSA à moins de 100 000 euros, si vous voulez.
100 000 euros.
Oui, voilà, 100 000 euros par client. Et le troisième modèle, si vous voulez, c'est des sociétés de services au sens classique, spécialisées dans le domaine du logiciel libre, qui font effectivement, en amont du conseil, qui font le build des projets, hein, soit du développement, soit de l'intégration de projets en utilisant des briques open source, et puis qui interviennent aussi en assistance technique, en délégation de personnel.
Christophe Guillemin, une question.
Oui, alors j'ai bien compris les différents modèles, mais je voudrais savoir s'il y en a un aujourd'hui qui est plutôt dominant. J'ai fait plusieurs salons Linux. Souvent dans les conférences, on parle beaucoup des services, et vraiment, vraiment, vraiment beaucoup des services, beaucoup moins de l'édition open source. Aujourd'hui, on peut dire quoi? Que les entreprises de ce secteur, à 80%, elles génèrent des revenus sur les services et peut-être à 20% sur le côté éditeur?
Non, mais quand on est éditeur open source, ce qu'on va vendre, c'est du service. Quand Microsoft, si vous voulez, le modèle économique de Microsoft, il y a un modèle simple qui est celui de la licence, d'accord, dans lequel, en fait, qui vient, si vous voulez, financer les efforts initiaux de recherche et développement, soi-disant, c'est surtout des efforts de commercialisation. Hein. Rappelons-nous qu'un éditeur propriétaire, il consacre au mieux 10 à 15% de sa masse salariale en R&D pur, d'accord. Tout le reste, c'est des coûts de marketing, de commercialisation du produit, de maintenance du channel, etc. Ne nous trompons pas là-dessus. Et donc, si vous voulez, quand on est éditeur open source, naturellement, on a des coûts bien moindres en termes de diffusion de son produit, etc. Il y a une vraie quote-part de R&D et on n'a pas besoin d'avoir ce mécanisme de licence. Donc, la plupart des éditeurs open source font des outils libres et en général, ils sont gratuits pour à peu près tout le monde. Et par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils délivrent de la même façon de la software assurance comme les éditeurs propriétaires devraient le faire. Quand Microsoft vend sa software assurance, il devrait y avoir associé un véritable service. Alors, c'est vrai que ce qui a fait crier beaucoup les entreprises contre la software assurance de Microsoft, c'est qu'il n'y avait pas de service en face. Ils ne voyaient pas, ils payaient les licences et ils payaient en plus la software assurance, mais sans service supplémentaire. Dans le domaine de l'édition open source, ce que les gens achètent, c'est cette software assurance. Alors, on l'appelle comme on veut. C'est du support, de la maintenance, de la software assurance, mais la réalité, c'est que c'est un accompagnement, si vous voulez, spécifique quand vous êtes utilisateur professionnel de la part de l'éditeur open source. Et puis, en général, l'éditeur open source, il réassure plutôt un premier tiers de confiance qui va être un intégrateur, soit une SS2I traditionnelle, soit une SS2L.
Et donc en fait, vous fournissez à la fois le logiciel brut, le service associé, mais il est très rare qu'une administration ou une entreprise vienne vous voir en disant « Voilà, moi, j'ai téléchargé le logiciel, il était gratuit, je veux juste le service. » Ça, ça arrive très, très peu.
Ça dépend de ce qu'on appelle service. Service, il y a vraiment...
Le support technique,
il y a une palette,
et l'évolution, les mises à jour futures.
Oui, oui. Ce que les gens achètent, c'est ça. C'est bien la partie support. Il n'y a plus aujourd'hui, si vous voulez, de grands utilisateurs, il y en a encore quelques-uns, qui utilisent massivement le logiciel libre sans passer par une case de réassurance. C'est-à-dire que tous les grands comptes aujourd'hui qui utilisent le logiciel libre... Alors moi, je peux vous parler plus des grands comptes parce que c'est effectivement ce que je connais le mieux. C'est la cible, si vous voulez, de l'Inagora. Mais aujourd'hui, tous les grands clients qui utilisent massivement le logiciel libre souscrivent à des offres, si vous voulez, d'assurance, de support, de maintenance. On l'appelle comme on veut, mais c'est bien un modèle assurantiel, si vous voulez. Je suis utilisateur à grande échelle, par exemple, de Mozilla et de Firefox. Eh ben, je veux être couvert en cas de bug de ce logiciel. Et il en existe, comme il existe toujours des bugs sur un logiciel.
Club ZDNet, le rendez-vous des acteurs qui font l'actualité IT.
Alors, on parlait des clients de la, des logiciels libres. Frédéric Couchet, vous, délégué général de l'April, vous poussez à l'utilisation des logiciels libres. Alexandre Zapolski l'a évoqué aussi, dans les administrations publiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dresser un petit état des lieux ? Est-ce que les administrations publiques sont vraiment un moteur pour l'adoption de ces logiciels versus les logiciels propriétaires dont elles ont été des clientes et des gros clients pendant de nombreuses années. Quelle est votre action sur ce terrain-là ?
L'action de l'association, principalement, c'est la sensibilisation autour des enjeux du logiciel libre, et notamment, bien sûr, pour tout public, que ce soit le grand public, les entreprises et les administrations. Au niveau de l'administration, je pense qu'elles ont bien compris un certain nombre de choses. La première, à mon avis, c'est que ce qui est dépensé sur fonds publics, le développement de logiciels, quelque part, doit revenir au public. Et quoi de mieux que les logiciels libres pour un logiciel qui revient au public. Donc ça, c'est une mécanisme qui dit finalement que le logiciel libre est un logiciel public. La deuxième chose, c'est que les administrations ont des besoins qui sont communs, souvent, notamment les collectivités locales, et plutôt que chacun dans leur coin faire des appels d'offres en logiciel propriétaire pour acheter des logiciels qui vont être plus ou moins incompatibles pour gérer finalement le même chose, par exemple un cimetière ou un centre médical ou autre, plutôt que chacun dans leur coin acheter plusieurs fois le même logiciel ou des logiciels incompatibles, ils partent du principe de la mutualisation du logiciel libre, c'est-à-dire qu'ils se mettent ensemble pour développer des spécifications et faire développer par des sociétés de services ou en interne un logiciel qui va être un logiciel libre. Ça s'est fait notamment à travers une association qui s'appelle la DULACT, qui a dû se créer, je crois, en 2002, qui est l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres dans les collectivités territoriales et dans l'administration, dont l'April est membre fondateur. Et justement, la DULAC propose une forge, c'est-à-dire un endroit unique où les gens peuvent mettre leur développement, notamment administratif. Donc ça, c'est une raison.
Il y a des développements pour les hôpitaux publics.
Pour les hôpitaux, pour les cimetières, choses, hein. Etc., pour un tas de choses. Et notamment pour ce qu'on appelle les logiciels métiers, parce que traditionnellement, les hackers, les geeks qui développent du logiciel libre, ont développé plutôt des logiciels qui leur correspondaient, dont ils avaient besoin. Donc des logiciels d'infrastructure, système d'exploitation, des logiciels navigateurs Internet comme Firefox. Mais finalement, les logiciels métiers, c'est pas forcément très fun. Donc là, il y a un rôle à jouer pour l'administration publique de se dire que, par exemple, une gestion de cimetière ou une gestion d'autre chose de parcmestre, ça va pas forcément être fun pour un geek. Par contre, si nous, on a de l'argent pour payer une société ou des informaticiens pour développer cet outil-là, ils vont le faire. Et puis là, aujourd'hui, on vise aussi un moment important, c'est l'arrivée de Vista. L'arrivée de Vista, à la fois pour le grand public, pour les entreprises, mais aussi pour les administrations, remet en cause beaucoup de choses, parce que c'est pas simplement une mise à jour d'un système, c'est une vaste régression en termes de liberté individuelle avec la mise en place notamment de ce qu'on appelle les DRM, donc les mesures de technique de contrôle, mais en plus ça force les gens à revoir carrément tout leur parc informatique. Donc les DSI d'entreprise et d'administration se posent la question de se dire, quitte à migrer, pourquoi ne pas migrer vers du logiciel libre et justement aller vers un fournisseur entre guillemets de solutions qui est le logiciel libre, qui me rend indépendant d'un prestataire ou d'une société. Donc aujourd'hui, l'administration, on a cité tout à l'heure des exemples, Christophe Guillemin, Cindé, le projet Copernic, c'est-à-dire le paiement d'impôts en ligne, le ministère de l'Agriculture, les gendarmes. Donc il y a un mouvement là-dessus. Et l'autre mouvement, c'est de dire aussi, on développe sur fonds publics des logiciels libres et on communique avec les citoyens avec des formats ouverts. Formats ouverts, c'est des formats, par exemple, de documentation ou des formats, des protocoles de communication qui sont librement implémentables, qui permettent en fait aux citoyens de ne pas être forcés d'utiliser tel ou tel logiciel pour communiquer. Donc par exemple, aujourd'hui, l'administration pousse beaucoup, en tout cas en interne, à l'utilisation du format Open Document Format, qui est le format d'Open Office, qui est un format ouvert, normalisé par l'ISO. Et on espère en fait que demain, dans les mois qui viennent, ce format sera obligatoire dans les administrations pour les échanges entre administrations, et qu'il sera obligatoire aussi pour les échanges avec les citoyens. Parce que ce format ouvert permet à quiconque de lire finalement ou de communiquer avec l'administration, soit avec du logiciel libre, soit avec du logiciel propriétaire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec les formats fermés.
Alexandre Zapolski.
Et puis Frédéric, il y a deux points essentiels concernant l'adoption du logiciel libre par les administrations. Un, c'est que techniquement, le logiciel libre, notamment sur les grandes solutions d'infrastructure, ça marche bien, voire très bien, et souvent mieux que les logiciels traditionnels. Et deux, c'est qu'on l'a vu à l'usage, ça coûte moins cher que le logiciel propriétaire. Il y a un effet réduction de coûts, de l'ordre de 4 à 10 fois ce que coûte le logiciel traditionnel.
Frédéric Couchet, sur cette partie de prix, alors évidemment, si on avait invité des représentants du logiciel propriétaire, ils auraient 10 arguments à nous donner pour dire qu'ils ne sont pas plus chers qu'un logiciel propriétaire. Alors bon, c'est un débat qu'on va pas clore ici. On a effectivement souvent mis en avant la dimension de prix pour le logiciel libre. On a aussi mis beaucoup en avant. Est-ce que finalement, ce n'est pas le point le plus important? C'est qu'avec le logiciel libre, on a la possibilité pour une entreprise, une administration, comme le disait Frédéric Couchet tout à l'heure en prenant l'exemple de la Dulac, de finalement arriver à façonner le logiciel selon des besoins spécifiques d'une entreprise ou d'une administration, et puis de contrôler peut-être un petit peu mieux ce qu'il y a à l'intérieur et de savoir un petit peu mieux ce qu'on utilise, quoi.
Sur l'aspect coût, je dirais simplement que je ne sais pas si c'est moins cher, mais ce que je sais, c'est que l'argent est mieux dépensé en tout cas, parce que justement, il est investi dans un développement de logiciel qui va permettre à l'administration ou à l'entreprise d'avoir le contrôle de son système d'information, ce que ne permet pas le logiciel propriétaire. Donc à la limite, même si au coût d'investissement, au coût de maintenance, ça s'avérait plus cher, je préférerais que l'administration mette l'argent dans le logiciel libre que dans le shell propriétaire, parce que tout simplement, c'est une question stratégique, c'est une question de contrôle de l'information, sur cet aspect coût.
Club ZDNet, le débat business et technologie. Le rendez-vous des acteurs qui font l'actualité IT.
Tristan Itto.
Oui, pour rebondir sur ce que disait Frédéric Couchet, il y a quelque chose qui est très intéressant dans la façon dont on dépense l'argent. Et là je ne prêche pas pour ma paroisse, hein, mais je pense qu'il vaut mieux quand une administration ou une entreprise dépense de l'argent pour son infrastructure informatique, que ce soit de l'argent qui soit dépensé localement, qui crée des emplois localement, plutôt que de voir l'argent s'évader fiscalement via l'Irlande vers les États-Unis. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ignore souvent.
Alors expliquez-nous ça, parce qu'en fait, pour que tout le monde comprenne, c'est-à-dire quoi? Qu'en général, les grands éditeurs qu'on appelle propriétaires aujourd'hui, pour faire la distinction entre ce que vous défendez, vous, logiciel libre et propriétaire, sont essentiellement des éditeurs américains.
Ils sont américains, ils ont
qui
des
ont
filiales.
Ils ont leur siège européen social en Europe. Donc, les revenus qui sont créés dans les différents pays d'Europe, en France, Europe du Sud, remontent en Irlande, au siège social, et ensuite sont rapatriés sur la maison mère, le pays d'origine,
qui est les États-Unis.
7 fois sur 10, c'est les États-Unis.
Voilà. Et accessoirement, en Irlande, il y a des dispositions fiscales spécifiques, ce qui fait qu'ils ne sont même pas imposés en Irlande. Donc, il n'y a même pas d'impôts qui sont payés pour l'Europe sur cet argent. Et ça, c'est quelque part, c'est très dérangeant, parce que franchement, je préfère créer des emplois en France, payer des impôts en France, plutôt que ça aille dans la poche du retraité de Floride via des fonds de pension.
Alors, ça nous amène directement sur un sujet qu'on doit aborder dans ce podcast, c'est la création de ce pôle de compétitivité dédié entièrement au logiciel libre et open source, dit la première version officielle. Alors, Alexandre Zapolsky, vous êtes, en tant que président de l'A2S2L, l'initiateur, en tout cas un des maîtres d'œuvre de ce pôle de compétitivité. Ça a été annoncé par Thierry Breton, le ministre de l'économie, encore pour quelques semaines, il y a quelques semaines, justement.
Au mois de décembre.
Voilà, et ça doit... Enfin, on en est où sur ce dossier? D'abord, expliquez-nous dans le détail un pôle de compétitivité. C'est pour quoi faire, qui va être dedans, et est-ce que, notamment sur la question que vient de soulever Tristan Itto, sur cette capacité à finalement créer de la richesse intellectuelle et in fine économique, qui reste en France et en extension en Europe, hein, parce qu'on est, on est quand même aujourd'hui dans une communauté européenne. Expliquez-nous tout ça. Quel rôle ça peut jouer, ce pôle de compétitivité? D'abord, qu'est-ce que c'est?
Il y a un constat qui est simple, c'est que la France n'était pas particulièrement en retard par rapport au logiciel libre. Mais pas particulièrement, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un marché qui était en train de se développer, un marché économique qui était en train de se développer ailleurs qu'en France. Et il y a un dynamisme économique tout particulier avec tout un tas de nouvelles start-up, avec des modalités de financement de ces start-up, etc., aux États-Unis. Et donc l'idée, c'était qu'il faut agir d'un point de vue de la politique industrielle en France pour soutenir le phénomène économique qui est en train de se passer par rapport au logiciel libre. Et ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, il y a plus de 400 sociétés spécialisées en logiciel libre en France. Il y a plus de 10 000 emplois qui ont été créés grâce au logiciel libre en France entre 2000 et 2006. Et que quand on regarde l'ensemble des estimations en termes de progression de marché, on est en train de s'apercevoir qu'en 2010, le marché du logiciel libre pèsera peu ou prou 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et que ça représentera pour l'ensemble de la filière 60 000 emplois. Et quand on est face à ce constat de ce dynamisme économique, on ne peut pas, si vous voulez, rester sans rien faire en se disant « n'accompagnons pas ce formidable développement économique, ne restons pas là sans rien faire ». Parce qu'en parallèle, eh ben, on est sur un marché mondialisé et en parallèle, il commence déjà à y avoir des champions mondiaux ailleurs.
D'accord. Alors, donc, on a bien compris, donc, ça, c'est une réalité économique. Alors, qui va... d'abord, est-ce que ça a été annoncé par le ministre de l'économie et des finances, Thierry Breton, qui ne sera plus ministre vraisemblablement dans quelques jours, hein, après la formation d'abord du nouveau gouvernement? Est-ce qu'il va y avoir un suivi de ce dossier? Est-ce que ce qu'a promis Thierry Breton au mois de décembre 2006 sera tenu en décembre 2007? Ouais, est-ce qu'il y aura une continuité politique de ce dossier?
Il faut toujours espérer. Moi, je suis un optimiste et je ne peux pas imaginer qu'à un moment donné, une prise de position de la sorte, si vous voulez, à aussi haut niveau de l'État, que cette prise de position, parce que demain, il y aura un changement de gouvernement, quoi qu'il arrive, effectivement, qui est la fin, si vous voulez, de cet engagement qui a tout simplement été pris dans une volonté pour accompagner, si vous voulez, la compétitivité de la France à soutenir l'émergence de ce pôle de compétitivité. Donc, je ne peux pas croire, si vous voulez, qu'il n'y aura pas de continuité.
D'accord. Alors, mais partons du côté, principe...
Soyons vigilants.
Ouais. Bon. Partons du principe qui va exister. Qui va participer à ce pôle de compétitivité? On avait dit, géographiquement, c'est un détail, mais donnons-le quand même, il sera en Île-de-France.
Alors, un pôle de compétitivité, il faut en revenir aux fondamentaux. C'est quoi? C'est à la fois une politique d'aménagement du territoire et une politique industrielle. Ou plus exactement, c'est une politique industrielle inscrite sur un territoire. C'est ça, le pôle de compétitivité, quels que soient les pôles considérés. Bon, la particularité, c'est que nous, on appelait à une politique industrielle en faveur du logiciel libre. Et on a utilisé le moyen du pôle de compétitivité pour faire vivre cette politique industrielle. Et donc, on se met dans un schéma qui est exactement le schéma de tous les autres pôles de compétitivité. Donc oui, c'est inscrit sur un territoire, en l'occurrence l'Île-de-France, mais le logiciel libre, si vous voulez, n'a pas de frontières. Donc il sera, c'est logique, si vous voulez, d'inclure les autres initiatives qui existent en France, voire même en Europe, concernant le logiciel libre et de les rallier à cette initiative de pôle de compétitivité. Donc, en Île-de-France, mais dans une logique de réseau déjà au niveau national et demain au niveau européen. Et qui ça réunit? Ça réunit des acteurs publics, et en particulier des acteurs publics en termes de recherche publique, donc les grands organismes, type INRIA, les écoles d'ingénieurs, les universités. Et puis, ça réunit les entreprises. La particularité de ce pôle-là, c'est qu'il y a une très forte présence des PME. Et c'est normal, c'est un marché relativement jeune. Donc, il y a plus de 80 PME aujourd'hui dans ce pôle de compétitivité. Et naturellement, quelques grands groupes. Et puis, on a aussi des spécificités. On est dans le logiciel libre. Donc, les associations et les communautés de développement sont aussi intégrées à l'intérieur de ce pôle de compétitivité. L'idée, c'est de réunir l'ensemble de la filière et ensuite de faire des projets de recherche et développement, de les présenter à financement. Et l'idée, c'est d'obtenir, si vous voulez, une quote-part. Mais ça, on est exactement dans les mêmes modèles, encore une fois, que les autres pôles. Une quote-part de co-investissement de la part des pouvoirs publics par rapport à ces projets de développement en R&D.
Christophe Guimin.
Oui, j'ai un petit peu envie de me faire l'avocat du diable. Pourquoi avoir créé un pôle dédié à l'open source, sachant qu'il y avait déjà des pôles de compétitivité dédiés au logiciel, et donc, quelque part, créer un pôle qui va exclure tous les éditeurs qui ne sont pas open source?
Parce qu'on considère que le logiciel libre, c'est une filière à part entière. Quand vous êtes face à une filière qui va créer ou maintenir 50 000 emplois, il n'y a aucune autre filière aujourd'hui qui tient les mêmes promesses économiques. Ça, c'est essentiel de le comprendre. Aucune autre. Donc, on est face, si vous voulez, à une création d'emplois, une création de richesses qui est tout à fait phénoménale et particulière. Et donc, par là même, il faut un accompagnement particulier. Quand il y a des dispositifs sur la filière du jeu vidéo, que je sache, ça ne touche pas le reste, si vous voulez, des autres filières dans le monde de l'informatique. Et c'est vrai, vous avez raison, c'est une bonne chose. Il y avait d'autres pôles qui s'intéressent à l'informatique en général. Mais c'est une bonne chose. Ils existent déjà. Donc, si vous voulez, l'acteur qui ne ferait pas de logiciel libre, c'est-à-dire, ou celui qui ne souhaiterait pas que la résultante de son projet de R&D soit du logiciel libre, parce que la particularité de ce pôle-là, c'est que les gens qui vont développer dans le cadre des projets de R&D, ça sera du logiciel libre, la résultante. C'est pas le
cas
aujourd'hui.
Demain, Microsoft se met à faire de l'open source, ils peuvent venir dans le pôle de compétitivité.
Naturellement, si la résultante des travaux de R&D devient du logiciel libre. Première condition. Et deuxième condition qu'on demandera à tous les adhérents du pôle, qu'on demande à tous les adhérents du pôle, grâce, et ça c'est d'ailleurs l'apport de l'April, notamment dans la constitution de ce... Enfin, tu pourras en dire deux mots si tu veux, Frédéric. Bon, ben tu vas en... Ben, parle-en.
Alors Frédéric Couchet là-dessus, votre réaction au pôle des compétitivités logiciel libre open source, vous êtes favorable, on vient de le comprendre avec Alexandre Zapolski qui vous rend un hommage sur la création de ce pôle. Votre position là-dessus ?
Bah nous, il faut quand même rappeler qu'avant que Thierry Breton annonce ce projet de pôle de compétitivité, ce projet faisait partie d'un rapport du député UMP Bernard Carian qui s'appelle « À armes égales ». C'était une partie de ses propositions. Et nous, on a beaucoup participé à sensibiliser ce député et d'autres justement sur ce genre de choses. Donc on a effectivement participé dès le départ à la création de ce pôle. Et à mon avis, par rapport aux autres pôles, il y a deux différences principales. La première, c'est qu'en fait, dans le logiciel libre, il y a à la fois des entreprises, mais il y a des communautés. Et le fait que le pôle intègre dans la gouvernance les communautés, que ce soit les communautés de développeurs ou les associations, est un point très important et qu'il n'y a pas dans les autres pôles. Et le deuxième point, c'est effectivement qu'on a mis en place une charte au niveau de ce pôle par rapport à un certain nombre de choses qui peuvent mettre en danger le logiciel libre, comme les brevets logiciels. Donc les membres du pôle s'engagent notamment par rapport à cette charte qui vise, par exemple, à dire qu'ils sont contre les brevets logiciels et un certain nombre d'autres choses. Donc effectivement, si Microsoft demain fait du logiciel libre et veut intégrer le pôle, il pourra le faire. Il le fera dans les conditions de cette charte-là. Donc oui, on soutient ce projet de pôle. Et quant à la continuité politique, il n'est pas sûr que Thierry Breton ne soit pas encore ministre de l'industrie après les élections.
Effectivement, mais il n'est pas sûr qu'il soit non plus.
Non, mais vu que le ministre de la Culture a annoncé, pour notre grand malheur, qu'il comptait rester ministre de la Culture après les élections, donc la continuité, je pense qu'elle sera là. Et puis elle sera aussi par les députés qui soutiennent ce projet.
Club ZDNet, le rendez-vous des acteurs qui font l'actualité IT.
Alors Frédéric Couchet, on continue avec vous. À l'April, vous avez interpellé les candidats à l'élection présidentielle. Donc on est à une poignée de jours du premier tour de cette élection. Votre but, c'était de leur fournir une quarantaine de questions, je crois. Et la finalité, c'était quel engagement ils étaient prêts à prendre pour le développement et la pérennité du logiciel libre. D'un point de vue économique, on a abordé cette question, et j'imagine aussi sur d'autres terrains, notamment la part des logiciels libres dans l'éducation, etc. etc. Vous leur aviez laissé jusqu'au 15 mars pour vous répondre. Alors, un, est-ce que vous avez eu des réponses? Deux, si vous en avez eu, est-ce qu'ils sont capables de vous répondre par rapport à vos revendications?
Alors, d'abord, rappeler que l'objectif donc, du site candidat.fr, effectivement, c'est de permettre en fait, aux candidats de pouvoir exprimer assez clairement leur position par rapport au logiciel libre, à la brevetabilité du logiciel, à la loi DADVSI, donc droit d'auteur et droit voisin dans la société de l'information, qui a été votée dernièrement mais qui est remise en cause, en leur posant un certain nombre de questions très précises, une quarantaine effectivement, avec un argumentaire. Parce qu'on a constaté en fait que à peu près tous les candidats sont en faveur du logiciel libre, ce qui est guère surprenant. J'imagine pas un candidat dire qu'il est contre le logiciel libre, donc contre le partage et contre le modèle économique du logiciel libre. Mais par contre, quand on regarde dans les programmes, il n'y a rien de concret. Enfin, il n'y a pas grand-chose de concret. Donc on s'est dit, nous, on va leur permettre, effectivement, d'être très concrets. Donc on leur a fin janvier 2007, le questionnaire avec un argumentaire, en indiquant qu'on était à leur disposition pour les aider. Donc on sait qu'ils sont en train, notamment les grands candidats, les équipes des grands candidats, sont en train de rédiger le questionnaire. Alors évidemment, certains ont plus de facilité que d'autres. Il est clair que...
Ils ont plus de compétences en interne? Non, des gens qui connaissent le dossier?
Ils ont sans doute certains plus de compétences en interne. Et puis certains ont déjà réglé, je dirais, en interne, les arbitrages sur un certain nombre de choses. Je suis à peu près certain que sur la partie logiciel libre, on n'aura pas trop de surprises, mais par contre, sur la partie de loi d'ADSI, qu'est-ce qu'on fait sur la loi DADVSI? Est-ce qu'on la revoit entièrement? Est-ce qu'on l'abroge ou pas? Je pense qu'en interne, au niveau par exemple Parti Socialiste et UMP, il n'est pas certain qu'ils aient pour l'instant une position.
Donc, ils n'étaient pas d'accord pour la voter déjà, donc effectivement, voilà. On peut imaginer mais même qu'aujourd'hui, en interne, une voilà. fois qu'elle est votée, voilà. Mais même si tous les décrets ne sont pas là, il y a encore... Une opposition. Ouais.
Voilà. Le fait que les questions soient précises leur permet aussi en interne de trancher. Donc on va recevoir, je pense, effectivement les réponses prochainement. On sait qu'ils travaillent. On a été auditionné par un certain nombre de personnes justement dans ce cadre-là. Et l'idée ensuite, c'est simplement de permettre donc sur un certain nombre de sujets, donc le logiciel libre, mais aussi l'éducation en informatique dans l'éducation. Est-ce qu'on continue par exemple les campagnes de propagande avec Microsoft sous couvert de l'éducation nationale ou est-ce qu'on revient à une neutralité de l'éducation nationale? Pareil sur la vente liée. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui concrètement contre la vente liée? Le fait qu'aujourd'hui, quand on va acheter un ordinateur, on a quasiment Windows préinstallé, on ne peut pas se le faire rembourser
c'est
ou très difficilement.
C'est qu'on a, on a systématiquement.
Systématiquement. Donc c'est un frein très important pour les autres systèmes d'exploitation, dont les logiciels libres. Donc on attend les questions, effectivement, les réponses d'ici la semaine prochaine ou dans deux semaines. L'idée étant d'avoir le maximum de réponses avant la publication des candidats officiels à la présidence, c'est-à-dire ça doit être le 22 mars, je crois, de manière à ce que même si les candidats n'ont pas eu 500 signatures, bah, au moins, on ait leur réponse pour les pouvoir les mettre en ligne. Et la procédure se poursuivra pour les législatives donc de 2007. Donc là, il y aura un questionnaire spécifique pour les députés qui sera très court, en fait. Et la même chose pour les municipales de l'an prochain. L'idée étant d'adapter le questionnaire à leur périmètre de décision, en fait. Donc je pense que ça va leur permettre de prendre position, très clairement, ou de ne pas répondre sur certains points, mais ça permettra aux gens du logiciel libre et aux gens qui s'intéressent à ces sujets-là d'avoir une grille de lecture et ensuite de voter en conscience par rapport à cette grille de lecture et par rapport à leurs propres convictions.
Christian Nitto, vous avez à la Mozilla Foundation, alors vous êtes Mozilla Europe, vous, mais est-ce que vous intervenez sur le débat politique national ? C'est l'échéance, voilà, c'est tous les 5 ans, c'est important, c'est le moment aussi la parole se libère un peu, où on peut avoir des espaces de revendication. Par rapport à l'initiative de l'April, interpeller les candidats, leur demander peut-être pas de s'engager, mais au moins de se positionner par rapport à cette question de logiciel libre. Vous avez un point de vue Mozilla Europe sur cette question ?
On est très neutre d'un point de vue politique. Il n'empêche pas que le genre d'initiative fait par candidat.fr est très intéressante. Moi, je l'ai signé il y a une pétition. Je l'ai signé à titre personnel. J'encourage les auditeurs à le faire, à se renseigner sur le sujet, parce que justement, au moment de ces échéances, c'est le moment idéal pour interpeller les politiques, pour avoir une idée claire de ce qu'ils pensent sur ces sujets qui sont, à mon sens, essentiels. Hein. On parle d'informatique, on parle d'un avenir numérique. C'est aujourd'hui que c'est en train de se décider. Et il ne faut pas que les hommes politiques, hommes et femmes politiques, restent dans l'ignorance de l'importance de ces sujets. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes, et en particulier les auditeurs de ce podcast, s'ils l'écoutent, c'est qu'ils ont un intérêt pour la chose. Il faut qu'ils aillent sur candidat.fr, candidat au pluriel, hein, .fr, qui lisent les questions, qui signent la pétition comme je l'ai fait, parce que c'est, en tant que citoyen, c'est un moment clé pour faire passer ces messages importants sur la liberté et du futur numérique.
Alors, on va conclure là-dessus.
Juste une précision sur la
dernière
pétition.
Précision.
Ouais, la précision, effectivement, ouais. On a mis en place une déclaration d'utilisation de logiciels libres qui dit en fait deux choses très simples. Je déclare utiliser des logiciels libres, pas forcément que des logiciels libres, donc je peux utiliser Firefox sur Microsoft Windows. Et la deuxième chose, je veux que le logiciel libre et le droit des auteurs et des utilisateurs des logiciels libres soient pris en compte par le législateur. Et donc cette déclaration vise à la fois à donner du poids aux questions qu'on envoie aux candidats, mais aussi à permettre de voir, par exemple, dans une circonscription, combien il y a de déclarations d'utilisation de logiciels libres dans telle circonscription. Ce qui permettra à une personne qui ira voir son député dans telle circonscription de se dire, ben voilà, monsieur le député, vous avez 100 ou 1000 utilisateurs dans votre circonscription d'utilisateurs de logiciels libres.
Merci Frédéric Couchet. On va terminer là-dessus. C'est la fin de ce Club ZDNet. Donc merci aux trois invités, Tristan Nitto, Alexandre Zapolski et Frédéric Couchet. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Club ZDNet.fr avec Christophe Guimin. Merci Christophe. À la semaine prochaine. Au revoir.
Club ZDNet. Chaque semaine, le rendez-vous des acteurs qui font l'actualité IT.